me semble dépasser le problème de cette Rome, cette complexité des dossiers, de monter les dossiers pour faire redescendre de l'argent quelque part. À la ville de Strasbourg, je crois qu'on essaie de mettre en place effectivement une action autour de l'insertion professionnelle des tziganes. On a essayé, enfin on essaye, je pense qu'on va y arriver quand même, donc à monter un projet FSE, Fonds social européen. On a cherché ce qu'on appelle des opérateurs ici à Strasbourg pour dire non, on n'est pas capable de faire. On veut que les gens, puisque maintenant avec la nouvelle circulaire, des tziganes, roms, roumains ou bulgares, mais comme les roumains et bulgares, ont le droit à ce qu'on appelle des contrats d'insertion. Donc il faut trouver des solutions pour qu'ils aient le droit tout de suite. C'est très, très, très compliqué. Donc il a fallu trouver effectivement un opérateur qui veuille bien faire une formation. On a recherché sur Strasbourg. Deux opérateurs nous ont dit, écoutez, c'est trop compliqué de faire un dossier FSE. Comment vous préférez ne pas le faire? En plus, c'est plus compliqué de faire. Donc c'est vrai que ça ne va pas le faire. Donc cherchons, on a cherché un autre opérateur. Et on est retrouvé effectivement sur un opérateur qui est déjà très proche de la population de Cigales, de type non française plutôt, ce qui s'appelle Lupovino, une association qui travaille depuis 10 ans sur le quartier du Polygone, et qui a accepté effectivement de porter le projet, bien qu'il ne soit pas formateur en tant que tel. On est en train de monter l'ingénierie pour effectivement arriver à les forces en place. Donc je pense que c'est ça qui bloque particulièrement. Je comprends en ce cas qu'en Roumanie, ils ne sont pas capables, entre guillemets. Alors s'il faut payer des conseillers de conseillers qui vont conseiller les gens pour faire un dossier, ça prendra beaucoup, beaucoup d'argent et il n'y aura toujours rien qui arrivera. Je vous dis, c'est une petite expérience de 3 mois de sueur assez forte. Il a fallu même qu'on renforce notre équipe pour essayer d'arriver à démontrer que c'est possible d'utiliser ce contrat européen. Alors je ne vous dis pas du FEDER, sans doute.
Il y avait la dame aussi avec une question ici. Oui, madame. Merci. 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 C'est un peu la réponse à ma question. Je me demandais s'il y avait une allocation, enfin une somme allouée à la France. Donc il y a le Parlement, la communauté européenne a débloquer des fonds pour la France.
Non. Il y a des fonds qui sont débloqués pour l'Office pour l'immigration, des fonds spéciaux pour les populations qui viennent en France d'autres pays. Jusque-là, on les a utilisés pour les expulsions.
Oui, qui ne concernent pas uniquement les
fonds. Oui, c'est vrai. Ce sont des millions. Et encore une fois, qui n'ont servi à rien parce que ces personnes sont revenues. Qui ne revenait pas?
Et il n'y a pas un organisme de coordination au niveau européen qui se dise, voilà, on va décider d'utiliser les fonds de cette manière, de manière un peu plus simple.
Il y a des organisations non gouvernementales qui sont consultées par la Commission européenne, mais il n'y a pas d'organisme qui centralise. D'où le désir des organisations non gouvernementales roms, ou qui s'occupent des roms, d'avoir un commissaire qui s'occupe de ce sujet, des roms.
Et une autre question, est-ce que vous travaillez directement avec les Roms? Parce que depuis le début, on parle beaucoup de l'attitude des Européens vis-à-vis des Roms, de ceux qui ont peur ou de ceux qui les aident et qui veulent les intégrer. Mais ces populations sont des populations nomades vous avez dit qu'ils peuvent effectivement décider de s'installer, de ne plus bouger. Est-ce que dans l'ensemble, on sait si les Roms ont envie de s'intégrer, je ne vois pas le mot s'intégrer, mais de s'installer et de renoncer à bouger? Parce que vous avez parlé des 700 000 Roms d'Espagne, et quelle est la situation par exemple en Espagne? Est-ce qu'ils sont sédentaires ou est-ce qu'ils ont envie aussi de bouger, de venir en France ou de repartir en Roumanie?
Donc il y a deux cas, je vais essayer de répondre. Donc il y a les Roms, qu'on nomme gitanes et qui bougent parce que c'est leur... Mais les Roms qui viennent de Roumanie, les Roms de Roumanie et de Bulgarie ne sont pas des nomades.
C'est des sédentaires, ouais,
chez eux. Ils sont des sédentaires.
Ouais, ouais.
Ils sont nomades dans le sens où moi aussi, si je veux travailler 2 ans en Angleterre, j'irai là-bas. Je m'expatrie. Donc je bouge. Mais ils ne sont pas nomades. Ce n'est pas bon, ce mot. Ils ont des maisons, ils veulent donner... ils vont avoir la chance de s'intégrer. C'est mon avis personnel en les connaissant. Encore une fois, vous vous demandez si on les connaît directement. On les connaît dans la manière où, comme journaliste écrivant sur eux, je vais parfois dans des camps en France ou en Roumanie. Je vais dans des villages rencontrer des Roms qui travaillent dans l'administration. Je rencontrais cette fille Alina à Paris. Donc oui, j'ai des contacts avec eux. Et la seule chose qu'ils disent, c'est que à propos de écrivain allemand de Günter Grass, Julia Kristeva, qui est bulgare installée en France, a un autre mot très joli qui s'appelle idéal. Et donc, dans un très joli livre qu'elle a écrit il y a très longtemps, il y a une vingtaine d'années, il disait que notre seul problème, et elle le disait il y a 20 ans, c'est qu'on ne veut pas leur donner aux Roms la chance de poursuivre un idéal. Voilà, à ceux qui veulent. Mais maintenant, encore une fois, c'est litigé. Il s'agit de ceux qui veulent vraiment vivre comme nous tous, aller à l'école, avoir un travail, avoir un salaire, pouvoir acheter un logement, une voiture, aller en vacances, qui veulent être reconnus en tant qu'être humain. Et ceux qui veulent tout simplement continuer à vivre comme ils le souhaitent. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce que je dis, mais en Roumanie, le gouvernement roumain a fait un expériment assez... c'est drôle, mais c'est triste. Ils ont construit des villages d'insertion, comme on essaie maintenant de construire en France. Ils ont construit des logements avec eau, électricité et tout ce que vous voulez. Ils ont installé des familles roms, une vingtaine. Le problème, c'est que sur ces vingtaine de familles, une dizaine ne voulaient pas utiliser l'électricité. Et ils ont installé leurs cochons dans le salon. Et ils ont refusé de se laver. Parce qu'ils disaient, ils se lavent quand ils ont envie, dans l'eau de la rivière... Il se sèche au vent et ainsi de suite. Donc je pense que l'approche doit être différente pour chacun.
Je répéterai juste les mots du préfet Alain Rémier qui connaissait évidemment beaucoup mieux que moi quand il dit que les évacuations de camps cassent le processus d'intégration des Roms. Après, c'est très facile, on les expulse et puis on dit regardez, ces gens-là ne veulent pas s'expulser. Et puis voilà, c'est reparti, on entretient ce mythe du fait qu'ils ne veulent pas s'expulser. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand ils s'installent, même dans des situations absolument épouvantables, ils ont juste envie de se poser.
Et pour l'Espagne, qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement espagnol s'est rendu compte que de nombreuses femmes roms souhaitent travailler comme assistantes ou comme infirmières, parce qu'il faut le reconnaître, ce sont des femmes qui ont beaucoup d'enfants et qui adorent s'occuper des enfants. Donc elles ont un don pour ça. Et le gouvernement espagnol a décidé de faciliter leur insertion en formant des professeurs ou des formateurs roms, déjà, qui viennent de leur culture ou de leur population, afin de les aider aussi dans ces démarches qui n'est pas facile. Voilà. Donc c'est possible. C'est possible. Ils sont dans et les Finnois font pareil. Voilà. Donc ils essayent. Mais bon, les Espagnols sont allés très loin, même pour les Roumains. Vous savez, les Roumains sont les plus nombreux pas en France. Mais là, on ne parle pas des Roumains, mais peut-être un jour on parlera. Ils sont les plus nombreux en Espagne. Ils sont plus nombreux que les Marocains. Et vous savez quoi? Il y a des maires roumains des villes espagnoles. Il y a des partis roumains en Espagne qui votent. C'est possible. Il faut accepter une certaine réalité. On vit dans une Europe multiculturelle, multilingue. On n'est pas juste caché dans notre niche. Là, on est des Français, là, des Anglais, là, des Roumains. L'Europe est différente. Il faudra qu'on accepte et qu'on change, nous aussi, qu'on évolue. Voilà.
Oui, question, là, je pense. Oui, pardon.
Oui, j'ai envie de reprendre ce que vous venez de dire. C'est possible, puisque j'ai eu l'honneur et le bonheur de travailler avec les groupes de population roms sur une formation linguistique. Je suis biculturelle aussi, roumaine, et j'habite en France, je vis en France. Et j'ai envie de transmettre un petit message. Bien sûr que c'est possible, à une condition qu'il faut respecter dès le départ. Ça veut dire que pour obtenir des résultats, pour que le travail, entre guillemets, soit efficace et efficient, il faut gagner 80%, à mon avis, la confiance de cette population. Et là, ça marche. Moi, je parle d'une expérience de terrain qui est très récente. Et de toute manière, j'ai envie, elle va être partagée puisque je vais publier tout ça. Et je suis convaincue, mais vraiment très convaincue, qu'il y a des choses qui peuvent être faites parce que cette population sorte de l'état dans lequel elle est, où on les met en même temps. Puisque sans nous rendre compte, en fait, l'étiquette, on la pose tout le temps. C'est peut-être dans l'inconscient collectif, mais l'étiquette, elle est là. Donc, j'ai vu le résultat, je le sais. Ce n'est pas facile, hein. Pas du tout, mais il faut y croire. Et il y a une chose à mes yeux, qui est très, très importante. Ça veut dire que ces gens qu'on appelle Roms, moi je préfère plutôt les appeler Roms ou Bulgares, bon, d'origine Roms, c'est vrai, ils ont développé une méfiance vis-à-vis de la, du pays d'accueil, entre guillemets, aussi, de la population qui est là aussi, etc. Et qui n'ont pas envie. Donc, finalement, si vous voulez, je vois comme, comme deux camps qui se rejettent mutuellement, puisqu'il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas de, d'envie d'aller envers. Et voilà, ça donne ce que ça donne. Et une autre chose, j'insiste aussi sur le fait qu'il faut travailler avec. Je l'ai vu à travers mon propre travail en langue. Il ne faut pas leur imposer un cadre. Il ne faut pas venir en tant que formateur. Je suis venue initialement avec un programme, puisque c'est comme ça qu'on travaille. D'accord ? Ils m'ont bousculé ce programme et j'ai été mise à l'épreuve, puisque ça fait une espèce de défi de voir si on peut répondre à ce qu'eux, ils attendent. Et bien là, c'est une richesse réciproque. J'en ai la certitude aujourd'hui. Voilà.
Malheureusement, merci. Les étiquettes, elles sont évidemment d'autant plus manipulées quand il y a une crise politique, quand il y a une crise financière, comme on en connaît. Ouais. Et ça donne la dernière étude de la Commission nationale consultative des droits de l'homme qui vient de rendre son rapport sur la xénophobie, où on voit bien que maintenant, c'est plus les musulmans qui sont encore... qui ont encore une bonne étiquette, mais que les Roms sont passés largement devant les musulmans dans la xénophobie des Français. Et ça, les chiffres viennent de sortir. Donc l'étiquette, évidemment, elle est, enfin vous savez mieux quoi, elle est largement utilisée.
Bonsoir. Je vais commencer par le forum européen des Roms et des gens du voyage. Et en fait, je ne savais pas trop quoi attendre de la conférence. Moi, je pensais que comme vous étiez journaliste, la question se porterait plus sur dans quelle mesure les clichés sont véhiculés, notamment par les médias. J'avoue que je crois ne pas avoir été la seule à être un peu choquée par les propos que vous avez tenus sur le fait que Anina, quand elle était présentée, elle était propre, elle était normale, elle était comme nous. Je dois dire que moi, je m'interroge beaucoup sur dans quelle mesure les médias sont largement responsables de tous ces clichés qui sont véhiculés. C'est vrai pour la France, c'est vrai pour la Hongrie, puisque c'est la situation que je connais. Et moi, je pensais vraiment que vous questionneriez plus ça. Voilà.
Je suis contente de vous poser cette question. Et je vais vous dire que les médias sont coupables. Voilà. Toutes. En partie, je ne sais pas si je suis très coupable, mais je me rappelle qu'au jour où j'ai commencé travailler à Courrier International, qui est un peu la maison mère de Presse Europe, on m'a dit, bon, maintenant que tu es là, on veut beaucoup d'articles sur les Roms qui volent, qui mendient, sur les expulsions, sur les crimes et tout ça. Et je suis restée outrée. J'ai dit, c'est pas ça, les Roms. J'ai dit ces mots qu'on vous avait dit, qui est comme nous, normal, propre. Je voulais dire que c'est ça que les gens ont en tête. Ils pensent qu'eux, ils ne sont pas comme nous. Nous. Donc, c'est une mauvaise chose. Ils sont vraiment comme nous. Les Roms ne sont pas différents. Je voulais dire ça. Alors, la presse est coupable. Pourquoi ? Dites-moi, très sincèrement, combien de fois vous avez lu dans la presse française, dans les 10 dernières années, des choses qui sont laudatives ou qui font l'éloge des Roms ou d'une personne d'origine Rome ? Je veux dire que la presse véhicule et prend et embrasse facilement les sujets qui sont négatifs à leur encontre. Plutôt que dire que Anina a écrit un livre, ou plutôt que de dire que voilà, les Roms sont des excellents musiciens ou des excellents artistes. Je ne sais pas si c'est ça que vous avez voulu dire ou voulu poser comme question. Si la presse est coupable.
Finalement, vous allez dans le sens de. C'est ce que du j'ai cliché. Dit, que oui, effectivement, il n'y avait pas du tout de rien de laudatif, effectivement, que quand il y a eu le changement des mesures, on a commencé à parler en août 2012 du changement des mesures d'accès au marché du travail pour les ressortissants roumains et bulgares. On n'a pas dit les ressortissants roumains et bulgares, on a dit les Roms. Donc forcément, ça a été mal interprété. Mais non, ce que je.
vous allez dans le même sens que ce que je disais.
Donc je ne peux pas vous contredire, c'est comme ça.
Mais j'avais l'impression que du coup, vous l'entreniez un peu aussi, en fait. C'était ça mon problème.
En fait, le thème de la conférence était les populations roms, un problème en Europe, en France, en Roumanie. Donc on a essayé de se tenir un peu strictement à ça, via et à travers ce que nous faisons à Presse Europe. Parce que pour nous aussi, quand il y a un sujet les roms, la question se pose, on prend quelle presse? La presse qui est partisane et qui est pleine d'invectives et qui n'est pas objective, ou on prend la presse qui est neutre, mais qui n'alloue pas beaucoup de place aux problèmes et aux sujets roms parce que la direction ou parce que le rédacteur en chef ne permet pas aux journalistes de se lancer plus sur ça. Et donc, c'est dur, mais on cherche, on trouve, et on ne trouve pas toujours, parce que comme vous avez vu, nous, on n'écrit pas des articles, on traduit les meilleurs articles parus dans le monde. Parfois, et je ne vous cache pas, la presse roumaine n'est pas tendre avec les roms, pas du tout. Du coup, ce qu'on fait, on essaie d'aller ailleurs, chercher dans la presse slovène, chercher dans la presse suédoise, dans la presse anglaise. Elle n'est pas toujours tendre, mais parfois on a des grandes signatures. Il y a par exemple un romancier anglais qui s'appelle William Blake, qui est parti vivre en Transylvanie, qui a écrit un livre sur les Roms. Il a vécu parmi les Roms. Et il a écrit une série de reportages. Donc on a trouvé des articles positifs, corrects, objectifs, honnêtes sur les Roms. C'est pas facile, mais on essaie. Parce que bon, nous on part du principe, et c'est pour ça qu'on est ici devant vous. Donc avant de venir, on s'est demandé avec Emmanuel, comment vous parlez des Roms, en pensant aussi à vos sentiments, mais aussi en pensant à ce que nous, journalistes, on peut penser des Roms. Et pour nous, les Roms sont victimes d'injustice. Mais
pour nous aussi, sinon ça va.
Est-ce que nous, deux journalistes, on peut changer le monde? On essaye. C'est pour ça qu'on est là. Mais est-ce que on a besoin de vous? On a besoin des autres journalistes? Est-ce que le regard des médias, des autres médias, va changer? Ça dépend, hélas, des patrons en ce moment.
Moi, ce que je dirais sur la presse française ou par exemple britannique, qui s'est beaucoup intéressé au sujet ces derniers temps, puisque ils craignent un afflux massif des ressortissants roumains et bulgares après la fin de la restriction du marché du travail qui va être en décembre 2013. Là, j'ai trouvé que la presse, en tout cas française, britannique, était quand même beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus intéressée à la réaction de nos États et de notre prise en charge politique. On changeait un peu le truc, on n'était plus axé sur le Rome, le Digan, avec tout ce qu'il a de mauvais dans nos États, mais je trouve que le questionnement de ce qu'on fait de l'argent, de comment on les considère et de comment est plutôt pas mal relayé dans la presse, et surtout le soufflet n'est pas retombé après le départ de M. Sarkozy. Et ça, c'est, je trouve ça plutôt pas mal dans la presse française. Voilà.
Oui, bonsoir. Bon, moi, j'aurais quelques petites réflexions. Le titre de votre conférence, donc, problème européen. Moi, je dirais un peu problème roumain, avant européen, bien que sachant que la Roumanie est en Europe. Mais bon, cette année, je fêtais mon 40e anniversaire de voyage régulier en Roumanie. Donc, je me targue de connaître un tout petit peu la Roumanie. Avec mon épouse, on a créé un site internet, justement, pour combattre ce qu'a dit madame, les clichés, parce que c'est vrai qu'ils ont la peau dure. Donc moi, une des premières questions que je me pose, et en plus, vous allez un peu dans mon sens, quand vous dites que les Roms en Roumanie sont sédentaires, pourquoi veulent-ils quitter la Roumanie? Quel est leur problème en Roumanie? Je le connais un peu, puisque je l'ai vécu, et quand nous voyageons, nous allons chez le peuple, nous logeons chez l'habitant. Donc on a très souvent ces réflexions. Les Roumains et Roms, c'est quelque chose de grave entre eux. Donc là, je pose un peu les réflexions. Après, vous avez parlé de l'Union européenne qui a demandé un rapport de comment intégrer les Roms. Mais par essence, les Roms, c'est quand même un peuple voyageur. Comment voulez-vous intégrer? En plus, avec une date limite où on est de nouveau dans la bureaucratie, 2020, il faut que tout soit réglé. Je ne sais pas, ils sont peut-être un peu optimistes, ou alors ils n'ont jamais mis les pieds hors de leur bureau. Par rapport au village, là c'est pareil. Et là, je citerai un petit village pas loin de Strasbourg, à Lieu-Polygone, La ville de Strasbourg a fait construire des petites maisonnettes pour les gens du voyage. Allez voir, autour de chaque maison, il y a au moins une ou deux caravanes dans la cour. En Roumanie, c'est exactement pareil. Vous parliez, les grosses maisons, on les a vues avec les zingues et tout. La caravane, elle est derrière et le cochon, il est effectivement devant. Ça, je peux vous le confirmer, on l'a vu, c'est clair. Donc, comment faire pour que cette population reste un peu plus en Roumanie? C'est pas que je veuille la rejeter, mais c'est quand même... Parce que chaque Rome a quand même une nationalité. Il est né dans un pays, donc il est bien dans un pays. Donc, pourquoi quitte-t-il ce pays? C'est un peu... Des réflexions un peu mélangées, un peu... Mais bon, qui, moi, m'interroge quand même beaucoup.
Je précise juste que ce sera la dernière question, parce que le temps passe.
Peut-être le monsieur peut poser aussi sa question.
J'en peux peut-être poser trois questions qui fussent, comme ça, pour voilà. Répondre globalement aux questions, parce que, heureusement, on a des apparatifs horaires.
Oui, bonjour. Alors, simplement, pour revenir sur la question de la presse, je suis assez surpris par le regard que vous portez dessus, puisque le discours qui est tenu par les médias n'est pas univoque. Je pense aux articles de Dylan Caro, de Céline Bergeon, qui ont fait suite à l'épisode de Saint-Aignan de juillet 2010, qui a relancé une politique tigane en France, et également aux articles d'Henriette Asselot signés dans le Monde Diplo d'octobre 2012, qui étaient brillantissimes et qui avaient vraiment le mérite de traiter avec un esprit critique ces questions-là aujourd'hui. Et Henriette Asselot, qui est, ceux qui ne la connaîtraient pas, la principale historienne française qui traite de la question des tiganes, soulignait bien le risque de l'amalgame que comporte la construction européenne d'une identité rome qui est parfaitement artificielle et qui a pour corollaire d'éclipser le c'est-à-dire qu'en France, on observe une inscription pluriséculaire de population sicilienne. Et malheureusement, ces populations, la question des Roms leur fait de l'ombre, si vous voulez. Alors, je pense qu'en fait, l'amalgame risque finalement de stigmatiser davantage les populations qui sont intégrées en France et ailleurs dans d'autres pays d'Europe, plutôt que de contribuer à l'indifférenciation. Qui est l'objectif, qui est l'objectif à suivre. Finalement, est-ce que, c'est ma question, et c'est là que je veux en venir, est-ce que la construction d'une identité rome artificielle ne risque pas d'être le principal argument d'une discrimination, puisqu'elle recouvre une réalité qui n'est pas historiquement valide. Voilà, c'est un peu confus, je m'excuse, mais est-ce que vous voyez où je veux en venir?
On va passer le micro au risque de la troisième question et je vous fais confiance pour répondre de manière.
Il me semble qu'il y a beaucoup d'interventions qui ont eu lieu et qui devraient nous amener à critiquer le concept d'intégration. Et ce n'est pas seulement une question de Roumains, de Bulgares, de Gitans ou autres, c'est valable pour n'importe quel citoyen européen. Je m'explique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un peu plus d'un an, il y a une loi qui a été votée sous le président Sarkozy et qui empêche, par exemple, d'habiter dans un tipi, même si ce tipi ou dans une caravane, ou dans un camping-car, ou dans un mobilhome, n'est-ce pas, même quand vous installez ça sur votre terrain privé. La presse, ici, les dernières nouvelles d'Alsace, ont même parlé d'un cas, je crois, dans la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines, où il y avait des jeunes qui avaient installé un tipi indien, et qui étaient sur un terrain qui appartenait à leurs parents. Et bien maintenant, alors cette loi, d'ailleurs, n'a pas été abrogée, comme beaucoup d'autres choses, il n'y a rien qui a changé dans le changement maintenant. Et bien voilà, je pense que c'est un problème beaucoup plus général. On l'a évoqué un petit peu par moment, c'est-à-dire c'est effectivement, même si les Roms roumains sont effectivement des sédentaires, je veux dire, dans la tête des gens, tout ça, c'est des nomades. Et nous autres, on est des sédentaires. Et ça remonte à la Bible. Hein. C'est Abel et Caïn. Vous voyez, c'est vieux hein, dans les têtes quand même. Hein. Ça ne date pas d'hier, ni même du 14e siècle. C'est beaucoup plus vieux que ça. Et donc, je trouve qu'on devrait renoncer à l'idée d'intégrer les gens. Et ça vaut pour tout le monde. Hein. C'est-à-dire, il faut laisser être les gens comme ils sont. Et les gens, ils changent. Et les groupes humains, ils changent aussi. Hein. Des gens qui étaient autrefois pauvres montaient jusqu'à il y a peu dans la société. Et moi, j'ai beaucoup aimé l'intervention de madame qui a dit, voilà, moi, j'ai dû changer mon programme éducatif. Et finalement, c'est ça l'idée que je retiens, c'est que c'est pas nous, c'est pas la commission de Bruxelles hein, qui doit, ou la ville de Strasbourg, ou le préfet, n'est-ce pas, qui doivent concocter des plans là-haut. Et l'argent reste toujours sur les comptes. Je ne sais pas s'il ne part pas même à Singapour. Cet argent-là, ces milliards, parce que rien qu'avec les intérêts, n'est-ce pas, on pouvait faire pas mal de choses hein, si on avait l'argent là en bas. Bon. Donc c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut au contraire, c'est pas nous qui avons quelque chose à apprendre aux Roms et à tous les pauvres et à tous les défavorisés. C'est plutôt nous qui avons à apprendre d'eux, tout simplement. Voilà.
J'ai pas eu l'occasion et j'espère que vous sentez que nous sommes très très contents du fait que vous êtes là et que vous nous posez beaucoup de questions et que ces questions vous intéressent. Maintenant, je vais essayer de répondre vite. Premièrement, je pense qu'on devrait cesser de considérer les Roms comme des enfants en leur disant « tu restes là, tu ne bouges pas de manie, tu ne bouges pas de là, tu ne bouges pas des enfants, tu les as vus chez nous. » Est-ce qu'on peut empêcher un être humain de bouger? Est-ce qu'on oublie que la libre circulation est quand même un des plus belles réalisations de l'Union européenne? Alors pourquoi les gens bougent? Pourquoi les gens quittent la Roumanie? Pourquoi les Roms quittent la Roumanie? Pourquoi moi j'ai quitté la Roumanie? Il y a un tas de réponses. On peut le faire par le fait qu'on a marre de la corruption, parce qu'on a marre de la pauvreté, parce qu'on veut chercher d'autres horizons, parce qu'on veut vivre dans une autre langue, parce qu'on est tombé amoureux, parce que pour les Roumains, Paris et la France ont toujours été, pas un idéal, mais un exemple. Vous connaissez la Roumanie, je ne dois pas vous dire que notre système de droit, là je parle notre, donc je ne suis pas roumaine, pas française, mais européenne, j'avais aussi le passeport européen, les deux. Notre système de droit est fondé sur le système de droit français. Vous n'êtes pas sans savoir que Napoléon III a aidé à la constitution de la Roumanie. Dans les années 1840, tous les Roumains intelligents venaient à Paris pour faire des études. Je dois vous parler encore de Cioran, de Ionesco, de... Pour les Roumains, Paris est genre voir Naples et mourir. Nous, on dit voir Paris et mourir. Mon père est mort sans voir Paris. Ma grand-mère a été professeure de français sans avoir jamais vécu ou visité une heure la France. Une minute. Par amour pour la langue française, on est des latins. Les Roms roumains parlent aussi le français parce que c'est la première langue apprise en école. C'est simple. Alors, pourquoi quitter la Roumanie? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On est en Europe. On veut vivre ailleurs, on veut essayer de se construire à notre futur. Je ne pense pas qu'il faut chercher des raisons. Il faut juste accepter qu'ils veulent vivre comme nous. Et s'ils font des efforts, je pense qu'on a tort de leur dire « on ne veut pas de toi ». On devrait leur dire plutôt avec compréhension « ok, si tu veux faire des efforts, je t'aide ». Maintenant, pour répondre à l'identité, est-ce qu'on a tort de leur imposer une identité? Alors, il y a beaucoup des études qui ont été faites, notamment par la fondation de Georges Soros auprès des Roms, et avec eux. Et en fait, eux, ils veulent que leur identité soit reconnue. Et je vais vous dire aussi pourquoi. Pour le simple fait que longtemps, ils n'ont pas eu d'identité, surtout en Roumanie, où ils ont été des esclaves, vous le savez, peut-être. Jusqu'en 1856, ils ont été carrément attachés à la terre. Ils n'avaient pas le droit de bouger. Ils ont envie qu'ils soient reconnus tel quel. Alors, est-ce qu'on a tort? Oui, je pense qu'on a tort. Donc, je suis d'accord avec vous dans le sens où, comme monsieur, on devrait tous œuvrer pour une identité européenne. Le passeport européen, ce n'était pas juste un rêve. Il était écrit dans les traités et dans tous les documents qu'on va arriver à la citoyenneté européenne et à la citoyenneté et au passeport européen. Mais je pense que pour eux, le pas pour arriver à une citoyenneté européenne, c'est passé par le fait qu'ils soient reconnus en tant que peuple. Tout simplement.
Et je me suis sur ce point-là, mais je pense que la volonté de créer une identité transnationale, si vous voulez, risque d'encourager l'amalgame avec des Roms qui sont inscrits et intégrés dans un certain nombre de pays européens depuis des siècles et qui finalement ne se sont pas concernés par cette question-là. Donc est-ce que le fait d'associer le terme de nation à Rome n'est pas quelque peu fallacieux? C'est ma question. Je ne suis pas certain que... Je pense que le seul point commun, le seul dénominateur commun entre ceux qu'on souhaite appeler Roms et puis Roms aujourd'hui, ce sont des représentations stéréotypées. Et je ne suis pas certain que le Rom français, et donc le Rom de l'Union, je ne peux pas mon connaissance de cause parce que je travaille sur cette question-là et je connais des manouches français inscrits notamment en Alsace depuis le 19e siècle. Et voilà, d'où ma question, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'amalgame ? Je pense que ça prend en considération parce que c'est exposé à ça.
Je suis vraiment désolée d'arrêter cette conversation parce qu'effectivement c'est très intéressant. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux pour cette question des Roms qui effectivement est intéressante, épineuse, etc. Merci à nos complices de Presse Europe. On espère vous retrouver pour un cycle l'an prochain. Cette conférence s'intégrait dans le cadre de La Ville en Visage, une exposition faite avec la Direction des Solidarités et le Comité des résidents étrangers. Je vous invite à aller la voir. Et pour ceux qui n'aiment pas les clichés, je vous invite aussi au mois de mai à venir voir la bibliothèque humaine que nous ferons avec le Conseil de l'Europe.